Bonsoir, comment allez-vous ? Dire merci paraît si simple. C'est la première chose qu'on apprend dans une langue étrangère. Bonjour et merci. Et pourtant, sans être un monstre, on a vite fait de le zapper, ce merci. Pas un livre de développement personnel n'a son chapitre sur la gratitude, comme la respiration. Même si c'est pertinent, ça finit par être agaçant. Pensez à l'air qui sort et rentre dans votre corps, dans vos poumons, et dites merci. Merci pour le ciel, merci pour la terre, merci pour le savon, merci pour les rotules de mes genoux, merci pour les poignées de porte. Encore une fois, même si c'est juste, tout ce qui est excessif est stupide. Mais tout ce qui est insuffisant, ou pire, oublié, est dommage. On oublie que ce qui nous tombe tout cuit dans la bouche a été cuit par quelqu'un. Quelqu'un qui l'a fait de tout son cœur et qui mérite un merci. On s'aperçoit que quelque chose n'est pas un dû quand on ne l'a plus. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant, écrivait Jacques Prévert. Alors oui, merci d'avoir deux jambes qui marchent, deux yeux qui voient, un toit sur la tête et deux enfants turbulents. Merci aussi d'être venu me chercher à la gare, merci pour le petit café, merci d'avoir passé l'aspirateur, merci de me tenir la porte. On dit merci quand quelqu'un fait quelque chose de juste cool ou de merveilleux qu'il aurait pu ne pas faire.
Bonjour, je m'appelle Tony et j'aimerais savoir pourquoi les motards lèvent la jambe quand ils dépassent une voiture. Merci.
Bonsoir Tony, pourquoi est-ce que les motards lèvent la jambe quand ils dépassent une voiture ? C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Vous avez écrit Bénédicte Simon, le guide du motard, et c'est édité chez Zérol. On voit souvent ça, surtout chez nous à Paris.
Je suis contente de pouvoir répondre à cette question, à la question de Tony, parce que il y a beaucoup d'automobilistes qui ne le savent pas et qui interprètent mal ce geste, mais en fait c'est tout simplement pour dire merci. Il remercie l'automobiliste de s'être un peu décalé dans sa voie pour faciliter le dépassement. Donc un motard qui tend le pied est un motard poli. Voilà, d'accord. C'est la raison pour laquelle... Il y a plein de petits codes comme ça dans le monde de la moto où on a des petits gestes entre motards, mais aussi avec les automobilistes, justement. Tout le monde connaît le geste avec les deux doigts, l'index et le majeur en V quand deux motards se croisent, par exemple. Là, pour le coup, en lâchant le guidon,
oui.
Mais pour saluer
un autre motard,
parce que c'est un petit peu l'esprit communautaire. D'accord. Comme le motard se tutoie, même si on ne se connaît pas, ou le motard s'arrête sur le bord de la route.
Pour
quand
aider
il
un
voit,
autre.
Pour aider un autre, ça c'est des choses qui existent réellement, qu'on ne retrouve pas tellement dans le milieu de l'automobile.
Pas du tout.
Mais par exemple, même un motard, je me demande s'il n'y a pas un peu de snobisme chez les motards, même un motard qui aurait une moto anglaise, il ferait le petit salut, un motard qui aurait une moto japonaise.
Oui, absolument. Ouais. Peut-être à une époque, ça a peut-être été le cas, oui, il y a des querelles de clochers comme ça, mais ouais. C'est plus du tout le cas
c'est
aujourd'hui.
Fini. D'accord. On est motard ou pas motard, oui.
C'est plutôt sympa, ça rend la route différente. Bon, c'est sûr qu'en ville, on passe pas notre temps non plus à dire bonjour à tout le monde, mais dès qu'on est sorti des agglomérations, tout ça, ça revient et c'est plutôt convivial.
Oui, parce que peut-être le motard en bave quand même plus sur la route.
C'est plus physique, on affronte les éléments.
Bien sûr.
Mais c'est une volonté aussi d'être comme ça. C'est un petit peu d'esprit, je sais pas, rebelle ou anticonformiste, que d'être, ne pas être dans le confort d'un véhicule à quatre roues et entièrement carrossé.
Quand il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait le motard ?
Je ne sais pas, je ne veux pas l'imaginer.
Il n'y a pas de signe que nous, on ne connaîtrait pas, par exemple.
Oh, en ville, peut-être qu'il peut y avoir des gestes d'agressivité. Oui, c'est vrai, parfois. C'est peut-être ce que ce jeune garçon demandait, peut-être que c'est mal interprété parfois. Le motard, il est vulnérable, hein. il n'a pas de carrosserie, et souvent il est mal perçu dans le trafic. Enfin, souvent les automobilistes n'y font pas attention ou ne le voient pas. Et rapidement, l'accrochage se présente. Et encore une fois, on est beaucoup plus vulnérable.
Faisons attention aux motards, ils n'ont pas de carrosserie. Le guide de Bénédicte Simon, je ne sais pas si je vous ai précisé le sous-titre, guide du motard, conjuguer plaisir et sécurité. C'est un beau titre, il est édité chez Erol. Stéphane Combe, qui réalise l'émission, me dit, mais en ce moment dans Paris, il y a énormément de scooters qui n'ont pas les mêmes codes que les motards. Ben, un scooter, c'est pas du tout un motard. C'est comme si tu comparais, moi je sais pas, un chat et un tigre. Alain Frère-Jean n'est ni chat ni tigre, il est ingénieur, historien, et il vient d'écrire les grands discours des présidents des États-Unis, de Washington à Trump, et nous l'aimons beaucoup depuis longtemps aux petits bateaux. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 8 ans, je vois souvent mes parents faire la vaisselle avec de l'eau de Javel et j'aimerais savoir qui l'a inventé. Merci, au revoir.
Bonjour Laure.
L'eau de Javel dont se sert peut-être ta maman pour nettoyer, pour désinfecter.
Ou ton papa, s'il a envie de faire quelque chose dans la maison, Laure.
L'eau de Javel a été inventée en 1785, donc à l'époque, si tu veux, de Louis XVI et de Marie-Antoinette, par un Savoyard qui s'appelle Berthollet, mais n'a pas du tout été inventée pour l'usage qu'en font tes parents. Elle a été inventée pour blanchir les fils et les étoffes qui sortaient du tissage ou de la filature avec des taches naturelles brunes qui étaient impropres à l'usage. Et à cette époque-là, à l'époque de Marie-Antoinette, le blanchiment qui devait se faire avec des lessives de soude ou de potasse et nécessitait l'exposition pendant plusieurs mois au soleil, ce qui coûtait extrêmement cher et qui empêchait que l'industrie textile puisse marcher pendant plusieurs mois d'hiver. Alors Berthollet, qui était directeur des teintures à la manufacture des Gobelins et qui surveillait tous les procédés chimiques, a découvert que le chlore ou que l'eau chlorée avait une action qui permettait d'accélérer celle de l'oxygène. Pourquoi ce nom d'eau de Javel? C'est parce que, à l'époque de Marie-Antoinette, existait à Javel, qui est un quartier de Paris, au bord de la Seine. C'est là que se trouvaient les blanchisseuses, les lavandières et aussi les pêcheurs. Et il y avait, ce qui peut paraître curieux à côté des pêcheurs, la première usine en France, peut-être, de produits chimiques, et notamment de soude. Et lorsque Berthollet a découvert l'eau de Javel, il a cru que ce qu'il avait découvert était un acide et il a voulu vendre son eau de Javel avec le nom d'acide. Mais comme tu t'en doutes, l'acide a une propriété dangereuse qui est de déchirer, de brûler, de détruire les tissus et même un peu la peau. Donc il faut la diluer dans de grands volumes d'eau, mais le mot d'acide n'est pas un mot très commercial. Alors ces messieurs de Javel ont trouvé qu'il valait mieux commercialiser ce que l'on croyait être de l'acide et qui n'était que de l'eau chlorée sous un nom beaucoup moins dangereux qui était le nom d'eau de Javel. Et en réalité, il n'y a de Javel que le nom.
Et ce n'est pas de l'acide, dites-vous, c'est du chlore. Et comment il a fait pour trouver le chlore? Ça vient d'où le chlore? Ça se trouve où?
Alors le chlore est un corps qui n'existe. Ce n'est pas lui qui a découvert le chlore. Et ce qui est très délicat, c'est que le chlore n'existe pas dans la nature à l'état naturel. Il est toujours composé avec un autre corps.
Donc, il y a réellement bien quelqu'un qui l'a inventé.
Oui, c'est un Suédois qui s'appelle Schell. Mais ce Suédois qui a inventé le chlore et qui a découvert que le chlore décolorait les feuilles des arbres n'avait absolument pas pensé à une application pratique. C'est Berthollet qui a eu l'idée d'une application pratique.
L'union fait la force. Le quai de Javel, il est quasiment en face de la maison de la radio, sur la rive gauche de la Seine, alors que nous sommes sur la rive droite. Dans les petits bateaux, ce soir, vous avez demandé comment agissent les somnifères, pourquoi le fond des bouteilles de verre, de vin, de verre aussi d'ailleurs, pourquoi le fond des bouteilles de vin en verre n'est pas plat et pourquoi les gens ont des lits moelleux.
On est parfait pour se ressembler. On est parfait pour s'assembler, mais je suis pas prêt pour l'instant, c'est compliqué. On est parfait pour se ressembler, on est parfait pour s'assembler, mais je suis pas prêt pour l'instant, c'est compliqué. Je sais que j'aurais pu faire les bons choix. Toi et moi c'est fini si c'était que ton avis. Dieu sait qu'il y en a plus d'une qui veulent prendre le large, mais j'ai trop peur de nager sans toi. C'est moins pire que tu ne penses. Quand j'y repense, les sentiments s'empilent et je m'embrouille tellement, c'est compliqué. Les gens disent que tu te
frais franches et leurs mouvements sont dégoûtants. Je veux continuer à te faire danser. Je veux 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 te faire danser. On n'est pas fait pour se ressembler. On n'est pas fait pour s'assembler. Mais je suis pas prêt pour la danser. Compliqué. On n'est pas fait pour se ressembler. On n'est pas fait pour s'assembler. Mais je suis pas prêt pour la danser. Compliqué. Tu crois que je suis le loup, mais je suis comme toi. Une fille comme un loup, maintenant j'ai besoin de ça. J'ai besoin de tout, la neige et les grains de sable. La fille est dans le trap, la fleur est dans le sac. Il faut que je sois raisonnable. Je veux plus jamais faire de mal. On est ce qu'on est, on le devient. J'améliore mon quotidien. On n'est pas fait pour se ressembler. On n'est pas fait pour s'assembler. Mais je suis pas prêt pour la danser. Compliqué. On n'est pas fait pour se ressembler. On n'est pas fait pour s'assembler. Mais je suis pas prêt pour la danser. Compliqué.
Compliqué, c'est le titre de cette chanson du rappeur Ichon. Vous connaissez Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France. Vous trouverez les références de ses ouvrages sur le site des Petits Bateaux.
En fait, je m'appelle Noé, j'ai 4 ans et je veux savoir pourquoi les gens de Limoilou. Au revoir, à demain.
Bonsoir et merci pour cette question. Quel vocabulaire à 4 ans, Limoilou, Patrick Boucheron. Vous en avez fait dans votre carrière des belles choses. Vous êtes-vous déjà intéressé au Limoilou?
Ben non, c'est pour ça que justement ça, cette question m'a intéressé et m'a intrigué. Puis je me suis dit, au fond, vraiment, tout est bon pour l'histoire. C'est-à-dire que avant, quand j'étais étudiant, on me disait, il y a des sujets sérieux et puis il y a des sujets qui ne le sont pas. Eh ben voilà, pourquoi avons-nous des lits moelleux? C'est une question, ça m'a fait réfléchir au fond. Oui. D'abord, tout le monde n'a pas des lits moelleux.
Certes non.
Certes non. Il y a malheureusement des gens
qui sont à la dure et d'autres qui sont à la douce.
Et puis il y en a aussi dans le monde qui peuvent choisir d'être à la dure. Regardez les futons, oui. Par exemple, des Japonais qui en fait est un lit d'origine indienne ou chinoise. Nous dit-on, ils ont plutôt tendance à se coucher sur du dur. Alors, j'ai un petit peu travaillé, parce que les historiennes et les historiens, ils savent pas tout, hein. Donc, quand on leur pose une question sérieuse, surtout une question d'enfant, je me suis rendu compte que, au fond, le geste essentiel, c'est de tasser un petit peu des feuilles, ou un peu de laine, comme ça, et de se faire un lit. Donc, ce geste fondamental, lit, ça vient de l'aigré en latin, entasser. Donc, c'est tout simple, c'est tout moelleux, c'est se faire un nid, voilà. Après, comment les gens vraiment se couchaient, c'est plus compliqué, il faut aller dans les musées pour voir ça. Et on voit par exemple des lits, regardez au Louvre, les lits égyptiens, c'est plutôt
dur.
Et puis il y a un mince matelas en lin, c'est aussi le lit romain. Mais c'est un lit à tout faire, le lit romain, parce que on n'y dort pas seulement. On y mange, on y reçoit, voilà. C'est au Moyen-Âge qu'on commence à dire qu'il est préférable de coucher sur un lit moelleux. Donc, la question est très sérieuse. C'est-à-dire, on commence à vouloir avoir des duvets, des matelas épais. Parce que, on pense que le sommeil en sera plus profond. Alors que, durant l'Antiquité, on pensait l'inverse. Et cette histoire des lits, c'est aussi une histoire du confort, donc des inégalités sociales. Parce que on le voit très bien au Moyen-Âge lorsqu'on étudie les intérieurs, les maisons. Quand on est pauvre, si on n'a qu'un seul meuble, c'est son lit. lorsqu'on a des inventaires après décès de gens qui sont très démunis, quand ils n'ont qu'une seule chose en propre qu'ils laissent à leurs enfants, c'est un lit.
Plus que la table.
Oui. Oui, parce que c'est un lit à tout faire aussi. Hein. C'est souvent un grand lit qui est un lit qui sert d'armoire et de coffre, qui est assez haut. Là, je parle du lit médiéval où on peut d'ailleurs dormir à plusieurs. Et où les médecins disent qu'il faut avoir à la fois avoir un dos de lit pour être bien le dos bien calé lorsque
assis,
et quand on dort que ça soit très moelleux.
Parce que Patrick Boucheron, quand on visite les musées, les châteaux, on ne voit que des lits de riches. On ne voit que des lits de châteaux, donc on s'imagine que tous les lits étaient comme ça, mais non.
Et oui, puis vous savez, au fond, quand on visite un château. C'est comme lorsqu'on va voir un squelette de dinosaure dans un musée. On ne voit que la carcasse. On ne voit que ce qui est en dur. Mais le plus souvent, nous manque les tentures, les tissus, tout ce qui justement rendait la vie moelleuse.
Ah, c'est vrai ça. Alors, à nous, à notre imagination de remplumer peut-être ces intérieurs que nous visitons. Patrick Boucheron a donc, je vous le disais à l'instant, écrit beaucoup de livres. Je vous donne juste le titre du dernier, Contretemps, édité au Seuil. Gérard Ligé-Belair, vous le connaissez bien aussi au Petit Bateau. Il est ingénieur, il s'intéresse aux bulles. Son dernier livre est sorti là au mois de décembre et il s'appelle Un monde de bulles, le champagne ou la science de l'effervescence.
Bonjour, je m'appelle Aïla, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi le fond des bouteilles de vin n'est pas plat. Merci.
Bien vu, Aïla. Pourquoi le fond des bouteilles de vin n'est pas plat, Gérard Ligé-Belair?
Alors oui, bonjour Aïla. Très bonne observation. Effectivement, si on est attentif, on se rend compte qu'il n'y a quasiment aucune bouteille de vin dont le fond est plat. Alors c'est ce qu'on appelle le cul de la bouteille, et ce cul est toujours renfoncé. Alors ça, c'est une particularité mécanique. Quand on veut mouler et faire des bouteilles en verre, ce serait assez compliqué de faire une bouteille à fond plat qui soit stable. Parce que pour que la bouteille soit stable, il faut vraiment que le fond soit absolument plat sans aucun défaut. Et le moindre défaut ferait en sorte que la bouteille serait instable. Donc la première raison, c'est une raison uniquement mécanique. Quand on fait ce renfoncement, on va faire en sorte que la bouteille ne va reposer que à partir d'une d'une forme circulaire.
Sur la couronne.
Sur la couronne. Et ça va être beaucoup plus stable que si elle reposait sur son fond plat, qui, avec la moindre imperfection, ferait en sorte que la bouteille serait instable.
D'accord.
Alors après, il y a quand même quelques maisons, alors en tout cas j'en connais une en Champagne, et la raison est assez amusante. C'est une grande marque de champagne qui est connue pour ne pas avoir une bouteille à fond renfoncé, mais qui est connue pour avoir une bouteille à fond plat. Alors c'est une histoire vraie. Il se trouve que l'empereur russe, qui s'appelait je crois Alexandre II au 19e siècle, était féru de champagne. Alors il se faisait livrer des quantités énormes de champagne de cette grande maison, mais c'était quelqu'un qui était un petit peu paranoïaque et qui avait très peur qu'on l'empoisonne et qu'on dissimule dans ses fonds de bouteille des explosifs. Donc il a demandé à ce que cette maison de champagne, dont il aimait beaucoup le champagne, livre son champagne dans des bouteilles dont le fond était plat, pour être certain qu'il n'y avait pas de charge explosive, parce qu'il était convaincu qu'on voulait l'assassiner. Et en plus, il a demandé à ce que cette bouteille de champagne soit parfaitement transparente. Alors, en général, les bouteilles de champagne et les bouteilles de vin sont d'un vert très sombre. Ça s'explique aussi, il y a une raison. Là, cet empereur avait aussi peur qu'on l'empoisonne. Donc il voulait être certain de bien voir le liquide qu'il allait boire.
Et alors, est-ce que pour les bulles, ça change quelque chose, ce renfoncement?
Non, ça change rien du tout.
Moi, je pensais sottement que les bouteilles de champagne étaient renfoncées pour la tenir. Moi, je tiens chez moi une bouteille de champagne par le goulot ou par le ventre, par le corps. Mais dans les restaurants chics, le sommelier, il me semble, pardon pour cette phrase, mais qui met les doigts dans le cul de la... Oui, je savais que ça allait pas être heureux. De la bouteille. Bon, mais c'était pas pour ça. C'était pas une bonne idée.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth, like a ship without an anchor.
Some they do and some they don't. And some you just can't tell. And some they will and some they won't. And some it's just as well. You can laugh at my behavior, and that'll never bother me. Say the devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go out shining, you're shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Supertramp, une valeur sûre, comme on dit sur France Inter, où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux. Comme on fait en son lit, on se couche. Et comme on fait son lit, on dort bien.
Les petits bateaux sur France Inter.
Isabelle Arnulf est médecin. Vous la connaissez maintenant au petit bateau, car elle est venue plusieurs fois.
Bonjour, je m'appelle Naël, j'ai 9 ans, et je voudrais savoir comment agissent les somnifères. Merci.
Bonsoir Naël. Professeur Isabelle Arnulf, vous êtes chef du service des pathologies du sommeil à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Comment agissent les somnifères, Naël ?
Les somnifères, c'est les médicaments qu'on prend pour essayer de déclencher le sommeil ou de le rendre plus long, moins coupé, moins entrecoupé. Alors il y a évidemment plusieurs familles de somnifères et elles agissent de façon différente, chaque famille. La famille qui est la plus consommée, on les appelle les benzodiazépines. Son mécanisme principal pour cette famille, c'est de ralentir le cerveau. Les molécules vont stimuler ce qu'on appelle les récepteurs GABA, qui sont des ralentisseurs généraux du cerveau. C'est pas très spécifique, c'est-à-dire que si on les prend à très haute dose, on va provoquer un coma, c'est-à-dire complètement ralentir le cerveau. L'avantage de ralentir le cerveau, c'est que les personnes qui ont des pensées trop rapides, qui sont tout le temps tendues, qui sont énervées, eh bien, ça va avoir tendance à les apaiser, à diminuer leur anxiété, leur angoisse, et préparer, du coup, plus facilement ce passage dans le sommeil où c'est un peu un abandon de soi. Quand on est énervé, on a un petit peu du mal à s'abandonner au sommeil. Donc, elle marche principalement par ce mécanisme-là, ce qui pas mal dans un sens. Le problème, c'est qu'on s'y habitue et que c'est difficile de les arrêter. C'est pour ça qu'on essaye de les prescrire sur des durées courtes et de les arrêter progressivement. Si on les arrête d'un coup, tout d'un coup, on peut avoir des angoisses ou des insomnies. La deuxième classe de médicaments, c'est les médicaments qui vont diminuer l'éveil. Quelquefois, quand on a du mal à dormir, c'est pas qu'on a du mal à dormir, c'est qu'on est trop réveillé. Il y a une balance entre l'éveil et le sommeil. Et quand on est trop réveillé, on va essayer de freiner les systèmes d'éveil. Et par exemple, un grand système d'éveil qui nous réveille, c'est l'histamine, qui est un produit qui nous tient réveillé toute la journée. Et donc si on prend un antihistamine, il y en a beaucoup dans le commerce, en vente libre, de Normil, Atarax, les personnes vont être moins réveillées et du coup pouvoir déclencher les systèmes de sommeil. Les inconvénients, c'est que c'est parfois un peu long. Ça peut endormir les gens aussi dans la journée.
Professeur Isabelle Arnulf, un antihistamine n'est pas un antihistaminique ?
Si, c'est la même
c'est
chose.
C'est la même chose?
Oui, c'est la même chose.
Je pensais que c'était pour les allergies.
Alors, c'est pour les allergies aussi, parce qu'il y a de l'histamine à l'intérieur de certains globules blancs qui sont destinés à faire la réaction allergique. Ce qui a été développé depuis une vingtaine d'années, c'est des antihistaminiques qui ne passent pas trop dans le cerveau, pour ne pas endormir les gens.
Alors, d'accord.
Voilà. Alors, il reste quand même des antihistaminiques qui passent dans le cerveau, et puis même ceux qu'on prend pour le rhume des foins ou pour d'autres choses, ils peuvent passer un petit peu dans le cerveau. Et donc, les personnes sont un petit peu groggy sous ces produits-là dans la journée, parce que ça diminue leur éveil. Et puis, tout récemment, on a identifié, il y a une petite dizaine d'années, un autre produit éveillant qui s'appelle l'orexine, et qui manque dans certaines maladies comme la narcolepsie, où les personnes s'endorment brutalement parce qu'il leur manque un système d'éveil, et l'industrie a petit à petit développé des médicaments anti-orexine, et on pense que ce sera les somnifères du futur.
Ah bon ?
Ils vont arriver dans les années qui viennent en France, ils sont déjà développés aux États-Unis, et ils ont un bon côté, c'est que en baissant l'éveil, on va laisser faire un sommeil naturel.
Après les propos du docteur Isabelle Arnulf, parlons un petit peu sur le sommeil, parlons un petit peu de ceux qui vivent la nuit. En lisant la revue Salamandre, je réalise que le photographe Stéphane Raymond et moi, nous sommes victimes du même délit. Quelqu'un nous boulotte nos boules à oiseaux. Chez moi, au lever du jour, quand il fait encore un petit peu nuit, j'ai vu une souris acrobate se pendre à la branche par les pattes de derrière et avec celles de devant, attraper les graines de la boule à oiseaux. Lui, en bon photographe animalier qu'il est, il a planqué toute la nuit et finit par apercevoir une martre, pas une Marthe comme le prénom, une martre avec un R. Ce voleur est très beau, petit museau, oreille pointue, œil de fouine, fourrure de rêve, une grosse queue longue comme lui, un peu plus foncée que la robe et aussi fournie que celle du renard. Hélas, j'ai l'impression que nous ne sommes pas prêts de l'apercevoir tant cette martre est prudente. Pour la voir, rendez-vous donc dans la revue Salamandre de ce mois de janvier 2021, celle qui a le chamois en couverture. Podcaster les amis, podcaster ces petits bateaux sur franceinter.fr. Eliane Gérard, Marjorie Devoucoux, Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Michel Bézikian et Noël Bréham. Nous avons participé activement à cette émission. Après les informations, vous retrouverez Jérôme Garcin.